mise en place de cette banque des BRICS et puis du fonds monétaire des BRICS sont les deux initiatives qui marquent vraiment le début d'une forme d'institutionnalisation de ce groupement. Donc le symbole politique, il est là. C'est aussi un symbole économique dans la mesure où ces institutions participent, disons, à un rééquilibrage de la gouvernance mondiale à l'heure où les institutions de Bretton Woods comme le FMI, la Banque mondiale ont du mal à se réformer. Bien là, les BRICS montrent qu'ils ne veulent plus attendre et ils préfèrent prendre l'initiative et accélérer quelque part cette reconfiguration du monde vers les puissances non occidentales à travers ce genre d'initiative.
À quoi vont servir ces deux nouveaux instruments financiers ?
Ces deux instruments financiers, en fait, sont calés trait pour trait sur la Banque mondiale et sur le FMI. C'est-à-dire pour la banque des BRICS, l'objectif ce sera de financer des projets d'infrastructure et de mise à niveau des économies des BRICS, mais pas seulement, hein, aussi des autres économies émergentes ou en développement. Hein, et cette banque servira vraiment d'outil de rayonnement et de soft power des BRICS, et notamment de la Chine, qui est vraiment une force motrice de ce projet. Quant au fonds monétaire des BRICS, l'objectif, c'est petit à petit de ne plus avoir besoin d'aide du FMI en cas de problème, non seulement pour ces pays-là, mais encore une fois, ce sera aussi une manière de proposer à d'autres pays tiers de les aider, de leur prêter des réserves en devise au moment des crises qui pourraient traverser, et donc permettrait à ces pays d'avoir une alternative, une concurrence en quelque sorte au FMI ou à d'autres financiers.
Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des jeux de pouvoir quand même? Les croissances sont différentes entre la Chine ou alors la Russie. Est-ce qu'il n'y a pas des déséquilibres aussi entre leur potentiel apport dans ces deux structures et leurs besoins?
Oui, tout à fait. C'est quelque chose d'ailleurs qui explique pourquoi ça a mis tellement de temps à se créer. Hein. Je pense notamment à la banque des BRICS, parce que les négociations se poursuivaient sur les apports respectifs des différents pays. Maintenant, ce qu'on voit clairement, c'est que la Chine domine très largement les autres BRICS. Hein. La Chine représente plus à elle seule que tous les autres réunis en termes de poids économique. Et donc, clairement, il lui revient d'avoir un rôle un petit peu de leadership. Mais la Chine ne peut pas se passer non plus de ses autres pays parce que dans sa stratégie d'affirmation au niveau mondial, la Chine n'est pas encore prête à assumer un certain nombre de choses qui vont avec un statut de puissance mondiale et notamment la gestion d'une réserve mondiale. Le renminbi, la monnaie chinoise, n'a pas encore ce statut aujourd'hui et donc elle a besoin des autres puissances émergentes pour peser dans le débat mondial. On entre aujourd'hui vraiment dans un autre monde et je crois qu'il faut vraiment réaliser le tournant symbolique qui est en train de se produire aujourd'hui. Sans qu'on soit passé par une guerre, en général, les changements de pouvoir et les grands rééquilibrages nécessitent, dans l'histoire, ont toujours nécessité une guerre, hein, une grande conflagration. Et là, c'est peut-être la première fois qu'on passe d'une configuration de pouvoir à une autre de manière douce et sans que ça génère un conflit majeur. Hein. On ne peut pas exclure ce type de conflit à l'avenir, notamment sur les ressources. Mais je crois qu'aujourd'hui, de ce qu'on peut en voir, les Chinois ne sont pas du tout dans cette prédisposition. Et les autres puissances émergentes permettent justement de rééquilibrer ce jeu et d'amoindrir les tensions qui pourraient exister si les Chinois faisaient bande à part, par exemple.